Le jeudi 23 janvier sur Colline, midi 2, toute l'info près de chez vous, c'est présenté par Fabien Gazot. Bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous. L'agriculture bio va-t-elle faire les frais des contraintes budgétaires? Les dernières orientations gouvernementales portent à le croire. Après une année 2024 déjà riche, l'hôpital de Mauléon va vivre une année 2025 tout aussi intense. À suivre le reportage de Jacqueline Pinon. Alors que les défaillances d'entreprises battent des records, les experts comptables proposent des formations pour donner plus de clés aux entrepreneurs. Enfin, la 9e nuit de la lecture a lieu cette fin de semaine et les propositions vont se multiplier sur le département. 30 ans de réclusion criminelle, âgé de 58 ans, le prévenu était jugé depuis lundi par la cour d'assises des Deux-Sèvres pour le meurtre de son ex-compagne Patricia Gomi, sauvagement assassinée en juin 2022 à son domicile de Cercey, commune de Vallanvigne. L'homme accusé de ce meurtre a nié les faits pendant son procès. La victime avait pourtant signalé la dangerosité du prévenu en déposant plainte pour des violences aggravées et des menaces de mort un mois avant le drame. Plainte qui avait été classée sans suite par le parquet. Ce serait un coup dur porté à l'agriculture biologique. Les professionnels du secteur ont en effet appris avec stupéfaction que l'agence bio, groupement d'intérêt public pour la promotion et le développement de l'agriculture biologique en France, était menacée de disparition. Un choix soufflé par la droite, majoritaire au Sénat lors de l'examen de la mission budgétaire du ministère de l'Agriculture. L'agence bio avait été créée en 2001 par le gouvernement Jospin. Alors que le secteur ne représentait que 1% de la production française, en 2023, on comptait un peu plus de 60 000 exploitations engagées en bio, soit 14% des fermes françaises, dont 9 000 exploitations dans notre grande région. Pour le Deux-Sèvrien Guy Moreau, président de la Fédération régionale d'agriculture biologique, c'est l'incompréhension qui domine.
Je la comprends mal, si l'économie budgétaire, parce qu'il y a des coupes budgétaires qui sont prévues dans les différents ministères, le budget de l'agence bio, c'est 2,7 millions d'euros, donc c'est très très peu. Donc on ne voit pas ce que ça va avoir comme impact financier, en tout cas. Je prends ça de manière un peu plus idéologique, en fait, de dire que l'agriculture biologique n'a plus sa place en France, quoi, en fait. L'année dernière, on a eu un retard des paiements des aides, bio notamment, très très important, qui ont quand même beaucoup fragilisé les agriculteurs en dehors des problèmes climatiques. On a eu la suppression de l'aide au maintien, qui a été aussi actée de 3 ans, donc même si la région avait réussi à le maintenir sur l'année 2024. Il y a un certain nombre de sujets comme ça qui nous font penser quand même que la filière bio n'était plus une priorité. Et ça, c'est plus gênant. Et je pense que les consommateurs en paieront aussi le prix. Parce qu'il faut savoir que si la filière agriculture biologique en France venait qu'à disparaître ou en tout cas péricliter, il va y avoir des importations de bio parce que le consommateur sera toujours demandeur de bio. C'est ça qui est assez paradoxal, une filière.
Guy Moreau, président de la Fédération régionale d'agriculture biologique Nouvelle-Aquitaine, il appelle les sénateurs et les députés à rejeter cet amendement qui menace directement toute la filière dans le pays. Après une année 2024 riche liée à la livraison attendue du nouvel EHPAD de la Châtillonnaise en avril dernier, l'année 2025 s'annonce tout aussi intense à l'hôpital de Mauléon avec une deuxième tranche de travaux sur ce même site. Écoutez le reportage de Jacqueline Pinon.
Cette fois, ce sont les résidents du foyer de vie de la Mignauderie, rattachés à cet établissement, qui en septembre y seront accueillis, rappelait la directrice déléguée du centre hospitalier Nord de Sèvres, Marianne Simon, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à l'hôpital de Mauléon, c'était hier.
Alors, il s'agit de bâtiments pour accueillir les résidents du foyer de vie, donc pour personnes en situation de handicap psychique. Donc, on va avoir effectivement 20 résidents qui vont nous rejoindre, et les locaux comprendront également des bureaux médicaux pour accueillir des médecins généralistes, salariés ou libéraux.
La commission médicale d'établissement vient par ailleurs d'élire un nouveau président.
Le docteur Bourasso a pris les fonctions donc, de président de la commission médicale d'établissement cette année. C'est une vraie satisfaction puisqu'il a pu déjà commencer à impulser des projets avec les professionnels de ville, les autres praticiens, notamment du CHNDS. Et donc ça va nous permettre de développer d'autres projets et d'accueillir peut-être de nouveaux médecins par la suite.
Autre projet souligné lors de ses vœux 2025, l'extension de la capacité d'accueil de jour Alzheimer qui passerait des 6 places actuelles à une dizaine.
Il s'agit de l'accueil de jour Alzheimer, donc c'est un dispositif ambulatoire qui permet d'accueillir en journée des personnes qui ont besoin d'une prise en charge adaptée et on souhaiterait effectivement augmenter la capacité d'accueil au regard de l'augmentation des besoins et des sollicitations que nous avons.
Rappelons que l'hôpital de Mauléon propose une offre de soins gériatriques complète avec 40 lits de soins de suite et de réadaptation, 30 30 lits d'unités de soins de longue durée et 89 lits d'EHPAD. L'activité 2024 a été soutenue avec 400 séjours en SSR et un nombre de journées qui progresse de 9% par rapport à l'année précédente. 60% des patients viennent du centre hospitalier Nord de Sèvres et près de 90% habitent le Nord de Sèvres. Cet hôpital peut compter sur une structure financière solide, mais le poids de l'inflation va peser sur le résultat comptable 2024, qui sera déficitaire tout budget confondu, précisait le directeur des centres hospitaliers de Mauléon, du Nord de Sèvres et de Niort, Bruno Folconier.
En fait, on a une structure qui se porte bien, plutôt la partie sanitaire. La partie médico-sociale, comme tous les autres EHPAD, est un petit peu plus difficile à équilibrer budgétairement. Globalement, l'établissement résiste bien, va pouvoir faire face à ses coûts et à cette dépense liée aux travaux. Donc, on peut dire que le centre hospitalier de Mauléon garde une bonne santé financière malgré tout.
Malgré tout, parce que tout budget cumulé, quand même, un déficit.
Oui, tous les hôpitaux en France connaissent une passe délicate. Ici, à Mauléon, on fait mieux que résister.
2025 qui verra l'élaboration du projet d'établissement fixant le cap des 5 prochaines années.
En attendant, c'est dans une belle unanimité que le directeur général, la directrice déléguée et le maire de Mauléon ont remercié les 200 agents pour leur implication dans la prise en charge des soins et l'accompagnement des patients et des résidents. Michel Pantier, l'ancien maire délégué de Terve, est décédé à l'âge de 76 ans. Un hommage lui sera rendu samedi dans la Manche où il avait élu domicile depuis son retrait des affaires publiques en 2020. Il avait également été vice-président de l'Aglo de B. 2024 aura été une année noire pour la France en matière de défaillance d'entreprise. Les Deux-Sèvres n'ont pas été épargnés. Le département a enregistré sur cette période l'ouverture de 198 procédures collectives pour les sociétés commerciales, près de 3% en plus par rapport à 2023. L'effet de rattrapage post-Covid, le remboursement des prêts garantis par l'État et certaines difficultés rencontrées dans des secteurs comme la construction, le transport routier, la restauration aussi, expliquent en partie ce phénomène, mais pas seulement. De nombreuses faillites trouvent aussi leur origine dans un manque de formation et de connaissances des dirigeants, selon Delphine Sabatet, présidente de l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine.
C'est le constat que font les tribunaux de commerce et qui nous est remonté puisqu'on travaille main dans la main pour œuvrer pour la prévention des entreprises en difficulté. Et c'est le constat qui est fait. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun dispositif obligatoire pour former les chefs d'entreprise. Hein. Autrefois, les artisans, pour créer leur entreprise, devaient suivre un stage obligatoire au cours duquel ils rencontraient des assureurs, des avocats, des experts comptables, des banquiers, et on leur expliquait un petit peu l'environnement économique dans lequel ils allaient évoluer avec ses contraintes, ses risques et toutes les actions à mener pour essayer de naviguer au mieux dans cet écosystème un peu particulier.
Les entrepreneurs ne sont donc pas tous suffisamment armés pour faire face aux éventuelles difficultés. Partant de ce constat, l'idée a été lancée de créer en Deux-Sèvres, mais aussi dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, un passeport pour entreprendre sous la forme d'une formation de plusieurs jours destinée aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Delphine Sabatet.
On aborde tout un tas de points qui nous semblent essentiels pour un entrepreneur avant de commencer à administrer son entreprise. Donc ça va passer par la gestion de la trésorerie, le choix de la structure, tous les aspects fiscaux, puisque bien sûr quand on devient chef d'entreprise aussi on a des devoirs. On devient notamment le collecteur de TVA pour le compte de l'État et il faut avoir à l'esprit tous ces petits aspects qui semblent petits, mais qui sont importants puisqu'un chef d'entreprise revêt un grand nombre de responsabilités. Aujourd'hui, il existe déjà des formations que les consulaires proposent, mais là, le pass que l'on souhaite mettre en place serait une formation, oui, mais qui serait, entre guillemets, certifiante et pas automatique. À l'issue de la formation, il y aurait un espèce de petit examen qui permettrait de valider les acquis et de permettre de dire, oui, j'ai eu cette formation-là et je peux m'en prévaloir.
Delphine Sabaté, présidente de l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine, qui, avec les chambres consulaires, travaille donc à la mise en place de cette formation certifiante qui devrait accueillir ses premiers stagiaires dans les mois qui viennent. Depuis hier, une plateforme unique, un élève, un stage, est ouverte aux employeurs pour déposer leurs offres de stage, d'observation à l'attention des élèves. Ce nouveau site rassemble toutes les offres de stage à destination des collégiens de 4e et de 3e et des lycéens de seconde générale et technologique. La 9e nuit de la lecture cette fin de semaine, cette opération nationale a fait ainsi la promotion du livre et la lecture en général auprès de tous les publics sur le thème cette année du patrimoine, ce qui est aussi l'occasion de découvrir les bibliothèques sous un jour nouveau. Celle du réseau de l'Aglo de Bay y participe avec une foule d'animations vendredi et samedi à Maucoutan, Mauléon, Bressuire, Neuilly-les-Aubiers ou encore Sorizet. Brigitte Groslot, la directrice.
Ça se décline avec pas mal de spectacles pour tout public, mais aussi des rencontres et une participation avec les deux musées, celui de Bressuire et de Mauléon, car le thème national cette année, c'est le patrimoine. Alors, par exemple, le musée de Bressuire vient à la médiathèque pour présenter un objet, et donc c'est aussi des interférences entre des lectures, cet objet, et voir l'objet musée d'une autre manière. Sur notre site internet, vous trouverez toutes les animations. Là, on a sorti le programme en fait de janvier à juin, donc vous avez de quoi remplir votre programmation familiale d'ici juin.
Brigitte Groslot, la directrice du réseau des bibliothèques médiathèques de l'Aglo de Bay, au micro de Patrice Bémanangy. À Thouars, une déambulation culturelle est proposée ce vendredi 24 janvier avec trois temps forts. À 18h30, à l'accueil du conservatoire Tindot, aura lieu une lecture autour de portraits de femmes. À 19h, la chapelle Jeanne d'Arc accueillera une lecture en lien avec l'exposition juste achevée. À 19h30, la librairie Brin de Lecture proposera un florilège de patrimoine. L'agglomération niortaise n'est pas en reste sur cette nuit de la lecture avec la participation vendredi et samedi des médiathèques Pierre Moineau à Niort, de Niort-Saint-Florent, du Clou Boucher, d'Effres, de Choret, d'Échiré, de Frontenay-Rouen, de Mauzé-sur-le-Mignon et de Villiers en Plaine.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
La suite de la journée s'annonce globalement nuageuse mais sèche. Le soleil parviendra-t-il à se montrer ? C'est toute la question. A priori, oui, sur la partie sud du département et l'est. C'est plus compromis sur le bocage bressuire et une partie de la Gâtine qui resteront aujourd'hui sous les nuages. Les températures autour de 10 degrés cet après-midi. Demain, le temps sera gris et légèrement pluvieux tout au long de la journée. Venteux également avec des rafales pouvant aller à 60 km/h. Il fera doux jusqu'à 13 degrés vendredi après-midi. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy. Je vous retrouve demain à partir de 7h. Bon après-midi.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci beaucoup Fabien pour toute l'info près de chez nous. Édition de la mi-journée sur Colline. Je vous souhaite un excellent jeudi après-midi avec